Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, napriek střelbě a napriek citovému pohnutí, které všichni
přijde... Товарищи делегаты, уважаемые гости, 27-й съезд КПСС...
La guerre de Corée se poursuit. Sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros des combats de Tehran.
The defense of our own security and of the entire Western Hemisphere.
Let me ask you one simple question. Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
Attention. Attention, ici Radio Kossuth Budapest. Monsieur Imre Nagy, président du Conseil de la République populaire hongroise, a fait ce matin l'appel suivant à la radio. Aujourd'hui, à l'aube, les troupes soviétiques ont commencé une attaque contre la capitale hongroise dans l'intention évidente d'abattre le gouvernement hongrois légal et démocratique. Nos troupes sont en combat. Le gouvernement est à sa place. J'annonce cela au peuple hongrois et au monde entier.
La crise de Budapest de 1956 incarne l'un des épisodes les plus violents de la répression soviétique dans ses républiques satellites. On compte 2500 morts, 20 000 blessés et 26 000 personnes arrêtées parmi les insurgés qui se soulèvent pour la démocratisation de la société hongroise. Malgré la mort de Staline, l'Union soviétique garde une emprise étroite sur les républiques sœurs. Jean-Yves Potel.
On vient d'entendre la radio de Budapest, qui est une version en français, mais c'est surtout le discours qu'a fait Imre Nagy, c'est-à-dire Imre Nagy, enfin ça dépend comment on le prononce, qui était effectivement le chef du gouvernement hongrois, et qui appelle à la résistance. On est exactement le 4 novembre à 5h du matin, à 3h, les soviétiques sont rentrés dans Budapest et à 6 heures, un peu plus tard, on va avoir une partie de la direction hongroise derrière János Kádár qui est passé du côté des soviétiques, qui va appeler à faire un nouveau gouvernement et à faire un autre gouvernement contre celui de Nagy. Ça paraît un peu compliqué, mais en fait, on est dans une situation où depuis une dizaine de jours, on a une situation insurrectionnelle dans le pays qui a commencé le 23 octobre. Le 23 octobre, il y a eu une manifestation d'étudiants qui était en partie une manifestation en solidarité avec les Polonais, qui étaient eux-mêmes en révolution. On est en 56, octobre 56. Les étudiants et la foule de Budapest, tout le monde s'est rassemblé devant la radio et des membres de l'AVU, qui était la police politique, ont tiré sur la foule. Et il y a eu des morts. Et à ce moment-là, la colère a commencé à naître. On a détruit une statue de Staline, on a commencé à s'en prendre au pouvoir de façon directe, et à ce moment-là a commencé une nuit entière d'émeutes, avec les armes qui vont être distribuées. On ne sait pas trop d'où viennent ces armes. Et ce qui est très important, c'est qu'au milieu de cette nuit d'émeutes, eh bien, le chef du parti de l'époque, qui s'appelle Guéraud, va appeler les soviétiques, et il va y avoir une intervention soviétique à ce moment-là. Et les troupes russes vont rentrer dans Budapest. Et il va y avoir des bagarres, ça va durer pendant 2-3 jours, et au bout de 2 jours, le gouvernement va démissionner, Guéraud va disparaître, et va apparaître à ce moment-là Imre Nagy, qui va être nommé chef du gouvernement et qui va former un nouveau gouvernement. Qui est cet Imre Nagy? C'est un dirigeant réformateur du Parti communiste, qui avait déjà été au gouvernement juste après la mort de Staline, qui a eu un gouvernement qui a duré à peu près un an, qui avait fait des réformes qui avaient été bloquées en fait par l'appareil stalinien. Donc la formation du gouvernement de Nagy en octobre 56, suivie d'un changement aussi de la direction du Parti communiste qui se réforme et auquel on met aussi un réformateur qui s'appelle János Kádár, qui avait d'ailleurs été lui-même en prison avant, qui avait été libéré de prison grâce à l'action de Nagy. On le met secrétaire général du Parti communiste. Et donc vous avez ce couple avec d'autres qui vont être à la tête de l'État et du gouvernement. Mais très vite, On s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a une forte radicalisation de la population, manifestation, les conflits s'arrêtent, mais on fait des réformes, on demande le pluripartisme, on libère les prisonniers politiques, on libère le primat de l'Église catholique hongroise, on donne la possibilité aux partis agrariens de se reconstituer. Les intellectuels sont organisés dans des cercles, qu'on appelle les cercles pétophiles, où ils parlent, ils publient une presse. Vous avez des conseils révolutionnaires qui sont mis dans toute la Hongrie, voire des conseils ouvriers dans les usines. Quelques jours, c'est une vraie révolution qui se met en place, avec une mobilisation considérable de toute la population, et ça inquiète complètement les autorités qui étaient sur place, qui regardaient de près. En plus, il y avait une conjoncture internationale qui a joué malheureusement en défaveur des Hongrois. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux éléments importants. D'une part, l'Occident n'a rien fait, n'a rien bougé. Il y a eu des protestations, bien sûr, il y a eu quelques manifestations ici ou là, mais les Américains ont expressément fait savoir diplomatiquement aux Soviétiques qu'ils ne feront rien. Il faut dire qu'on est dans le contexte de la crise de Suez, qui n'est pas très loin. Et ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, dans le monde communiste, alors qu'on commençait à avoir des différenciations, on se rappelle qu'en 1948, Tito est sorti, que ça commençait à chauffer entre les Chinois et les Soviétiques, qui aboutira à la rupture des années 60. Eh bien, dans le monde soviétique, les Chinois et les Yougoslaves ont fait savoir clairement à Khrouchtchev, qui a fait une tournée, qui soutenait la répression. Même l'idée qu'il y ait que Kadar, qui était un des dirigeants, va être rattrapé et qu'on va l'emmener à Moscou, on va lui expliquer ce qu'il faut faire et on va le mettre à la tête d'un pseudo-gouvernement qui remplacera celui de Nodge après la répression. Cette idée-là, elle vient de qui ? Hein ? Elle vient pas du Kremlin, elle vient pas de Budapest, elle vient de Tito, qu'il a suggéré à Khrouchtchev, qui avait une autre idée. Non, prenez celui-là, il va être très bien. Imre Nagy, il a été arrêté. Et ensuite, il y a eu le procès. Et en 58, si je me souviens bien, Nagy a été non seulement condamné à mort, mais exécuté. Et Kadar a réussi une sorte d'exploit. C'est que, alors que lui, qui est celui qui a le plus de sang sur les mains, parce que c'est lui qui a décidé non seulement, il a appelé les Soviétiques, mais c'est lui qui a personnellement décider l'exécution de Nagy. Mais cet homme qui a fait ça, qui a les mains les plus sales de tous les dirigeants, il a quand même réussi à sortir de cette histoire comme étant le plus libéral. Si vous écoutez les commentaires des années 88, 89, 90 sur le changement, ou quand il est encore au pouvoir, il s'en va à ce moment-là, on dit « Ah bah Kadar, c'était le temps ouvert, il a fait des réformes, etc. »